Et on retrouve aujourd'hui l'économie. Bonjour Dominique Bayard.
Bonjour Alexis.
On s'approche du 21 juin, ce sera dimanche, jour le plus long de l'année et fête de la musique en France. Édition 2020 particulière à cause de la pandémie, elle sera essentiellement numérique. De nombreuses contraintes à respecter, à l'image Dominique de l'industrie musicale étouffée par le confinement.
Oui, les musiciens ne sont pas restés muets pendant cette période d'hibernation forcée. Bien au contraire, ils ont plus que jamais partagé leur passion avec les Français via Internet. Une générosité artistique totalement désintéressée, puisque pendant cette période, leurs revenus, faute de concerts ou de ventes de musique enregistrée, se sont effondrés. La deuxième industrie culturelle du pays, elle pèse 10 milliards d'euros, pourrait voir son chiffre d'affaires chuter de 40% cette année. Et le futur proche n'est guère rassurant tant que la confiance ne sera pas revenue. Difficile d'organiser des événements en live, des concerts, toutes les sorties d'albums, les tournées qui ont été annulées à cause du coronavirus sont reportées à l'an prochain. Cela ne manquera pas de créer un embouteillage, une offre pléthorique donc en 2021 qui pénalisera bien sûr les artistes les moins connus.
Et évidemment Dominique, ce repli de l'industrie musicale est un phénomène mondial.
Et c'est la musique vivante, celle qui rémunère le plus ses interprètes, qui a le plus souffert. D'après une étude de la banque Goldman Sachs, les revenus générés par les concerts vont reculer cette année de 75%. La baisse est de 25% pour la musique enregistrée, disponible en disque ou en ligne. La pandémie a stoppé net la renaissance de cette industrie qui était en progression constante depuis 5 ans. Cela dit, le meilleur est à venir sur le moyen terme, selon la banque américaine. D'ici 2030, l'industrie musicale va exploser, pronostique Goldman Sachs, grâce à des nouveaux modes d'écoute de la musique.
Une écoute qui passe de plus en plus par l'intermédiaire du numérique.
Oui, avec le streaming qui consolide d'année en année son rôle dominant dans la musique enregistrée. Il y a dans le monde 340 millions d'abonnés à des sites tels que Spotify ou Deezer. Eh bien, en 2030, ils seront probablement plus de 1 milliard. L'autre tendance qui a émergé pendant le confinement, c'est la musique en direct, en ligne, là où on ne l'attend pas vraiment, dans le cadre d'un jeu vidéo, par exemple. Le rappeur Travis Scott a attiré près de 30 millions de fans pour les concerts qu'il a donnés sur la plateforme de Fortnite. Il a fait des émules. Jul, le plus gros vendeur de rap français, s'est invité sur le même jeu pour promouvoir son dernier album. Twitch, la plateforme de jeu qui appartient à Amazon, ou Instagram sont maintenant les nouveaux temples de la musique vivante.
Et est-ce que ces nouveaux modes de consommation remettent en cause la domination des majors du disque ?
Alors, pas vraiment, pas de surprise de ce côté-là. Universal Music, Sony Music, Warner Music sont et resteront les premiers acteurs, les premiers bénéficiaires de cette industrie. Du côté des artistes, les facilités du numérique leur permettent aujourd'hui de proposer directement leurs sons au public, sans intermédiaire. Mais ils doivent aussi s'adapter de plus en plus aux attentes très très formatées de ce public friand de vidéos. Pour que leurs sons circulent sous cette forme très courte, ils ont donc intérêt à privilégier les morceaux d'une durée très courte et si possible le plus entraînant.
L'économie en bref, Dominique, des artistes portent plainte contre YouTube pour discrimination raciale.
Ils accusent la plateforme de vidéos d'avoir opté pour un modèle économique raciste. Ses contenus sont répertoriés selon l'origine ethnique des artistes et c'est en partie sur ce critère que les revenus publicitaires sont distribués. Ils sont bien moindres pour ceux qui sont issus des minorités, affirme ce collectif.
Et puis les États-Unis pourraient rompre définitivement leurs relations commerciales avec la Chine, c'est ce qu'affirme Donald Trump.
Oui, un propos économiquement assez iconoclaste, hein, puisque la Chine est le premier partenaire commercial des États-Unis. Bon, c'est aussi le pays avec lequel le déficit américain est le plus important. Il y a un rapport entre les deux. Ces propos sont bien sûr à remettre dans le contexte de la campagne électorale pour la présidentielle de novembre prochain que Donald Trump espère remporter avec son discours nationaliste, du nationalisme économique.